Alors bonjour Élodie.
Bonjour.
Tu es étudiante en master de sciences politiques en affaires européennes et actuellement en service civique à la Maison de l'Europe à Rennes. Alors aujourd'hui, on est ensemble, on t'accueille pour parler un petit peu de l'impact de l'Union européenne dans notre quotidien, à la fois en tant que Français, en tant que Breton et en tant que Rennais. On va détailler un petit peu tout ça. La France fait partie de l'Union européenne depuis un sacré bout de temps, puisque c'était en 1957 qu'a été créée la CEE. Et depuis, bah voilà, on est toujours dans l'Union européenne. Est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par nous dire ce que l'Union européenne a permis et permet aux Français au quotidien, notamment d'un point de vue économique ?
Alors, au niveau économique, en fait, l'Union européenne, ça permet surtout la consécration de ce qu'on appelle le marché unique. Donc, c'est un marché qui est commun aux 27 membres de l'Union européenne, avec donc la libre circulation des biens, services, des personnes et des capitaux. Ça veut dire que si on achète quelque chose dans notre pays, on n'a pas de frais de douane. La liberté des services, c'est que par exemple, je ne sais pas, un coiffeur qui a envie d'aller s'installer en Italie, il peut le faire. Et la liberté de circulation des personnes, c'est cette liberté qu'on a de voyager, d'aller travailler dans un autre pays. Et donc la liberté des capitaux, c'est aussi par exemple si, je ne sais pas, tu as envie d'acheter une maison à Prague, eh ben, tu peux le faire.
D'accord, ok. Et notamment la libre circulation des personnes, c'est en lien peut-être avec l'espace Schengen ?
Oui, alors ouais. L'espace Schengen, il y a certains pays de l'Union européenne qui n'en font pas partie et il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne qui font partie de l'espace Schengen. Mais en fait, l'idée de l'espace Schengen, c'est ça, c'est de pouvoir circuler librement entre les membres et donc avec une uniformisation des contrôles, donc voilà, des contrôles aux frontières.
Et de quelle manière la question de l'environnement, elle est traitée par l'Union européenne ? C'est une question assez actuelle.
Oui, c'est surtout une question essentielle pour l'Union européenne, puisque l'Union européenne, elle est vraiment très active dans ce domaine-là, notamment avec le pacte vert. Et surtout, l'objectif de l'Union européenne, c'est la neutralité climatique d'ici 2050. Et donc, il y a le pacte vert avec de nombreuses mesures. Et en fait, le pacte vert, il est appliqué à toutes les politiques de l'Union européenne, c'est-à-dire que ça va être appliqué aux politiques économiques, mais aussi aux politiques diplomatiques, donc les accords avec les autres pays sous réserve d'un certain respect de normes environnementales. Et du coup, le pacte vert, il intervient surtout, notamment par exemple, la protection des zones protégées, des zones terrestres et maritimes. Il y a une loi qui est toujours en cours pour être adoptée à l'Union européenne pour protéger 30% des zones terrestres et 30% des zones maritimes de l'Union européenne. Donc c'est un pourcentage assez important parce que pour l'instant, par exemple, il n'y a que 11% des zones maritimes qui sont protégées. Donc il y a cet objectif-là. Il y a aussi, par exemple, le réseau Natura 2000, qui est un réseau qui a été créé en 2000, qui vise à protéger la faune, la flore.
Et quand tu parles de zones terrestres, ça comprend les forêts aussi ?
Oui, en fait, c'est la protection de... Enfin, protéger certaines zones, donc c'est surtout les forêts. Il y a ce qu'on appelle les forêts primaires et anciennes, donc c'est des forêts qu'on soit été pas modifiées par l'homme, soit qui ont été très peu modifiées par l'homme depuis leur origine. C'est surtout la protection, oui, de la faune qui habite dans ces forêts. Ça peut être aussi la mise en place de ce qu'on appelle les corridors écologiques. Donc, par exemple, les ponts qu'on a au-dessus de l'autoroute pour que les animaux puissent traverser ou des bandes enherbées au bord des cours d'eau. Et il y a surtout un projet aussi de l'Union européenne, c'est que ces corridors écologiques, ils soient communs entre les différents États. Donc, si on a un corridor qui commence en France, qui ne s'arrête pas à la frontière avec l'Allemagne, mais qui continue, en fait. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour les animaux.
Bien sûr. Et justement, peut-être qu'on peut rebondir sur l'agriculture. De quelle manière l'Union européenne encadre l'agriculture en France particulièrement ?
Alors ça, c'est pareil. L'agriculture, c'est un des gros pans d'action de l'Union européenne. Donc depuis 1962, avec la politique agricole commune, qui va donc fêter ses 60 ans en janvier 2022. Et donc la politique agricole commune, elle intervient beaucoup en France, puisque la France, c'est le premier pays bénéficiaire en fait, de la PAC. Et donc c'est des aides aux agriculteurs. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Il faut savoir que la politique agricole commune, c'est aussi participer à rendre plus biologiques les productions, donc verdir la production agricole. Et c'est aussi le développement des zones rurales, donc un développement économique et social. C'est aussi favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs, par exemple. Donc il faut savoir que la PAC, ce n'est pas du tout un objectif de produire en grande quantité, même si au départ, c'était son objectif, puisqu'en fait, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait énormément de pénuries. Mais aujourd'hui, son but, c'est surtout de préserver les agricultures nationales, de préserver les différences en fait, entre les différents États. Et donc, c'est pour ça que c'est un impact très important en France, parce que ça constitue une aide financière assez importante pour les agriculteurs et beaucoup d'aide aussi donc, dans cette idée du développement économique et social.
Et l'UE accorde aussi des fonds à la région Bretagne et à toutes les régions françaises, mais on va s'attarder sur la région Bretagne. Comment ces fonds sont utilisés par la région? Est-ce que tu as des exemples de projets qui ont pu être financés?
Alors oui, donc il y a beaucoup de fonds qui sont attribués aux régions. En fait, c'est la politique de cohésion, c'est l'idée de développer chaque région de l'Europe. Donc par exemple, en fait, les budgets de l'Union européenne fonctionnent sur 7 ans. Donc sur la dernière période 2014-2020, la région Bretagne, elle a touché 787 millions d'euros de l'Union européenne pour financer des projets. Donc par exemple, en projet en Bretagne, l'installation de nouveaux pêcheurs dans le Finistère, ça a été financé en partie par l'Union européenne, puisque c'est 39 000 euros, soit 40% du projet qui ont été financés par l'Union européenne. Ça peut être aussi par exemple l'acquisition d'une nouvelle machine à glace pour la criée d'Erquy, ça aussi, ça a été financé à 60% par l'Union européenne, c'est 55 000 euros. L'Europe est très présente dans la région Bretagne dans le financement de projets régionaux. Par exemple, il y a un site qui s'appelle l'Europe en Bretagne qui montre sur une carte tous les projets régionaux qui ont été financés en partie par l'Union européenne.
Ah d'accord, c'est top. Bah écoute, on encourage tout le monde à aller voir ça. C'est vrai que c'est super intéressant. Je ne savais pas que ça existait pour ma part. Et peut-être qu'on peut maintenant s'attarder sur la ville de Rennes, puisque la ville de Rennes a aussi un lien avec l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des projets aussi qui ont été implantés à Rennes, dont tu peux nous parler?
Alors, il y a beaucoup de projets qui sont aussi financés par l'Union européenne dans la ville de Rennes. Déjà, la très attendue seconde ligne de métro, elle est en partie financée par l'Union européenne, mais pas que. Donc, par exemple, il y a un service de garde à domicile qui a été créé pour les parents qui ont des horaires atypiques ou les familles précaires, qui a été financé pareil. C'est 90 000 euros qui ont été financés par l'Union européenne, c'est 46% du projet. Il y a aussi un bistrot italien qui a été créé à Rennes, dont le but, en fait, c'est l'insertion professionnelle des jeunes atteints de troubles autistiques, l'apprentissage de la restauration. Et donc ça, c'est pareil, il y a 14% qui a été financé par l'Union européenne, donc 50 000 euros. Ou par exemple, la Cité internationale Paul Ricoeur, dont il y a une partie qui a été financée par l'Union européenne pour favoriser l'accueil de doctorants internationaux.
D'accord. Mais c'est des beaux projets, en tout cas. Et est-ce qu'il y a des projets à venir dont tu as pu avoir écho?
Alors, les projets à venir, il y a notamment Rennes Métropole qui travaille sur déposer une ICE, donc une initiative citoyenne européenne. C'est un projet, en fait, c'est une proposition pour que l'Union européenne puisse créer une loi ensuite sur ce domaine-là. Donc, par exemple, il y a eu une ICE qui avait été créée sur l'eau, l'accès à l'eau potable. Et donc, la Rennes Métropole travaille toute cette année sur déposer une ICE. Et après, il faut récolter à peu près 1 million de signes. Il me semble que c'est 1 million de signatures avec réparties entre différents États membres pour qu'ensuite la Commission européenne se penche sur le sujet pour voir si elle en crée une proposition législative.
D'accord. Bah écoute, on va suivre ça de près. Et peut-être que tu peux nous parler aussi de la Maison de l'Europe, en quoi elle permet aussi de faire le lien entre Rennes et l'Europe.
Alors la Maison de l'Europe, c'est une association loi 1901 dont le but c'est d'informer sur l'Union européenne et de renforcer ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne en rapprochant les citoyens et l'Union européenne. Et elle fait le relais parce qu'en fait depuis 2007, elle est labellisée Europe Direct, c'est-à-dire que c'est un relais de la Commission européenne. Donc c'est un centre d'information et de ressources sur l'Union européenne. Donc tout le monde peut venir pour poser ses questions sur l'Union européenne, pour avoir accès à de la documentation. Et aussi, l'idée, c'est d'être présent dès le plus jeune âge. Du coup, on fait énormément d'interventions scolaires auprès des plus jeunes pour informer sur l'Union européenne, pour expliquer son fonctionnement et développer ce sentiment d'appartenance européen.
Bah, merci beaucoup à toi, Élodie. La Maison de l'Europe est ouverte au public tous les jours, de 9h à 13h et de 14h à 17h. Donc, c'est place du Parlement.
C'est ça.
Et on peut vous appeler, si on veut, au 02 99 79 57 08. Merci Elodie.
Merci Rebecca.